On a tous en mémoire un ou deux ou mille souvenirs culinaires, des petits et grands moments de partage, sophistiqués ou improvisés. Que ce soit un festin somptueux ou une improvisation gourmande, chaque plat a le pouvoir de raconter une histoire, de créer des liens et de faire battre nos cœurs un peu plus fort. À travers ces mets qui éveillent nos sens, nous explorons les joies simples et les émotions profondes qui peuvent rendre un repas mémorable. Parce que cuisiner, c'est bien plus qu'une simple préparation culinaire. C'est une façon de montrer son affection, de célébrer la vie et de s'exprimer avec une touche personnelle. Alors les ingrédients de l'émission sont simples. Un épisode, une recette, une rencontre. Dans Cuisiner avec amour, nous avons choisi d'explorer l'essence même des moments passés dans la cuisine. Chaque épisode sera une immersion dans une recette, une rencontre avec une personne qui partage ses histoires, ses passions. Parce qu'au-delà des ingrédients et des techniques, il y a des récits à découvrir, des rires à partager et des liens à tisser. Alors préparez-vous à vous immerger dans les aventures culinaires où chaque plat est une déclaration d'amour, chaque préparation, une histoire à raconter. Alors on est 8 places du marché au Vigan, dans un endroit qui s'appelle le Maquis. Quand on regarde un peu les étiquettes de bouteilles, on voit tellement de couleurs, tellement de variétés qu'on a l'impression d'être un peu chez un disquaire. La déco est sympa, il y a des chaises en formica. On est avec Ruben. Ruben qui a ouvert le Maquis il y a quelques mois, donc pendant l'été, si je ne me trompe pas. Ruben, tu vas nous raconter aujourd'hui une recette qui te tient à cœur. C'est quoi la recette que tu veux nous décrire ?
J'ai pris une recette d'agneau à la romaine.
Vas-y, raconte-nous. Alors, tu peux nous décrire les étapes. Comment tu l'as fait ?
J'achète de l'agneau de l'Aveyron, parce qu'ils ont des magnifiques agneaux dans le coin. L'agneau à la romaine, c'est un plat de viande en sauce. C'est comme une daube d'agneau. Tu chemises ton agneau. Tu peux y mettre un bouquet garni, tu y mets 2-3 légumes. C'est un truc très simple. Sauf que en fait, l'idée qui est assez cool, moi ce que je trouve assez incroyable, c'est que dans les étapes, tu vas de surprise en surprise. Tu chemises ton agneau, huile d'olive, beurre, bouquet garni, de l'ail. Tu fais suer ça. Tu déglaces une première fois au vinaigre de vin blanc. Ensuite, tu mets ton ail et ton oignon. Tu redéglaces au vin blanc. Tu fais suer ça tout doucement, tu prends une grosse cocotte en fond, tu fais au minimum, tu balances tes légumes, et après, une fois que ça a commencé à colorer, tu déglaces avec ton mélange vin blanc-vinaigre anchois que tu as écrasé à la fourchette, et ça, ce dernier déglaçage, le mélange, l'acidité vin-vinaigre, le goût de l'agneau, ton bouquet garni, ail, herbe, tout ça, et l'anchois, ça te donne un truc, mais c'est incroyable. En fait, l'anchois, t'as l'impression qu'il va venir apporter un côté iodé, tout ça. Non, il vient faire le liant, un peu comme le chocolat dans la daube. Tu vois, il y a toujours 2-3 morceaux de chocolat à la fin qui viennent lier le vin rouge, la viande, les légumes dans une vraie daube. Là, l'anchois, il va apporter une tension et le lien entre l'agneau et les déglaçages au vin, les aromates, les sucs. Et cette cuisson longue, tu cuis ça une heure et demie, 2 heures. Et moi, je sers ça à la fin, donc l'agneau, la sauce sur des pâtes, tu vois, des tagliatelles bien fraîches ou des petites patates, des petites grenailles un peu au four, là, tu vois, c'est plein de sauce. Alors, ce qui est cool, moi, j'aime bien, c'est de mettre... je mets de l'os à moelle pour la texture et je commence toujours la cuisson avec un joli morceau de gras. On a la chance avec mon frère d'avoir une tante chez qui on fait un cochon chaque année. Bon, là, on n'en a pas fait, mais... Et elle a des cochons noirs de Bigorre qui sont nourris aux glands et aux arbouses à côté de Nîmes. Donc, il y a un lard qui est incroyable. Donc ça, le goût du truc, là, à la fin, c'est... Et à la fin, t'as une espèce de... Ça vient faire une peau de gras qui fige et qui vient enfermer les sucs. Enfin, on dirait, tu sais, la couche des levures dans le vin qui vient protéger le truc. Ça fait un voile. Hop. Quand ça a fait ça, quand ça a fait cette espèce de pellicule, là, c'est bon, tu arrêtes la cuisson, tu laisses ton couvercle un peu découvert, tu fais tes pâtes. La dernière fois, on l'a fait pour une clique de copains de 7 qui sont venus faire un anniversaire. J'ai été super surpris. Comme cadeau, ils voulaient venir manger ici à 10. Et je leur ai fait ça avec des gnocchis maison. Gnocchis, patates et petits pois. On avait acheté des petits pois qu'on a mélangés avec l'appareil patates, farine, œufs. Incroyable. Ouais, vraiment. Ah oui, et il y a de la soja. Il y a beaucoup de soja. C'est aussi ça le... Ouais, ouais. Sauge pas trop sèche pour que ça largue un peu du goût. Et voilà, anchois, sauge, agneau, les déglaçages vinaigre, vin blanc.
Et alors on boit quoi avec cette recette? Parce qu'on est quand même dans ton bar à vin aujourd'hui.
On boit un carignan, mais il faut qu'il soit égrappé. Pas trop sur le végétal, pas trop d'astringence, tu vois, pas trop d'âpreté. Donc on pourrait aller vers Aurélien Petit, qui est à Montpérou, terrasse du Larzac, à côté. Enfin, il n'est pas en appellation, mais... Et il fait ce magnifique carignan, une cuvée qui s'appelle Cyclope, en 2021. Avec un peu d'épices, hein, mais léger, mais avec pas mal de tension, on boit ça. Et puis, vu qu'on va en boire plusieurs, parce que c'est un plat qui se mange pendant pas mal de temps, on pourrait boire Torpen du domaine Pousse-Pied, qui sont en Touraine, et ils font un Pinot d'Onis Pinot Noir. 60-40, incroyable ce truc là. Ou bien la Trinco des copains de Rio Pintat qui sont à Conquerac à côté de Saint-Thipo pour faire du local, hein, parce que Radio Escapade, on est là. Ouais, la Trinco c'est bien, super domaine.
Et qu'est-ce qu'on écoute avec ça?
Los Ejes de Micareta de Atahualpa Yupanqui. C'est du folklore argentin, c'est entre la chacarera et le folklore, quoi. C'est un monsieur qui a inspiré Mercedes Sosa et qui est mort à Nîmes. Trop drôle. Il est mort à l'Impérator. On l'a trouvé mort dans une chambre à l'Impérator. Il est venu faire un concert. Il y avait plein de monde et tout. Et puis, c'était un pote à mon père. C'est incroyable cette histoire. Il m'a raconté ça la dernière fois. Là, il me disait, ouais, Atahualpa, il est mort. C'est genre le maître d'hôtel qui est venu le voir, qui l'a appelé. Excuse-moi, le vieux là, il est mort. Ouais, c'est assez dingue cette histoire.
Tu sais qu'on a fait plusieurs interviews à l'Impérator, j'en parlerai au chef du coup.
Cette histoire, elle est assez dingue. Le mec, il est mort à l'Impérator. Il vient du fin fond de l'Argentine, il vient mourir avec sa maîtresse à Nîmes. Je sais pas en quelle année, c'était dans les années 90, je crois. Tu pourrais écrire un bouquin dans plusieurs volumes de tout ce qui s'est passé. Les toreros qui dormaient là-bas, les ferias à l'époque de Bousquet, et puis des recettes de cuisiner avec amour à l'Impérator. Il y en a des millions. Hein. Et ouais.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no pienso más. Los ejes de mi carreta nunca los voy.
Qui est-ce qui t'a amené comme ça à la cuisine?
Eh ben moi, je suis d'origine arménienne. Je viens d'une famille de gastronomes. Hein. Ma mère, ils sont de Lozère et de Nîmes. Le plat du côté de ma mère fétiche, c'est la moche. C'est une saucisse de chou, de couane, de cochon dans la panse. Tu fais ça avec des petites patates, avec des lentilles et tout, c'est incroyable. Et du côté de mon père, c'est une famille arménienne. Et du coup, quand j'étais petit, genre les premiers trucs que je mangeais, c'était des feuilles de vigne, c'était des keftas, le tchereg, l'espèce de brioche tressée au sésame, des petits piments au vinaigre et tout, à 2 ans, tu vois. Je me gavais, mais j'étais énorme. Vraiment,
T'as maigri depuis alors?
Ça va, mais il y a des photos, franchement, je fais peur, quoi. Mais ouais, c'est ça le goût pour moi. C'est, bah, tu vois, comme la ratatouille, gamin, c'est des trucs, des odeurs, à la fois l'héritage arménien, à la fois l'héritage, je dirais, méditerranéen de ma mère. Et mon frère aussi, hein, d'avoir un grand frère à 15-16 ans d'écart. T'as toujours l'espèce de rapport avec un modèle, avec une inspiration et tout. Et puis, vu que lui, il s'est orienté vers la cuisine, ça a été assez naturel en soi. Bon, on était un peu prédestinés en tant que gloutons, mais ça a été une grosse inspiration, quoi. Mon père vient d'une famille arménienne issue de la troisième génération. On parle de troisième génération après le génocide. Donc, ma grand-mère, elle était née à Latakié, en Syrie, de parents arméniens qui ont fui le génocide. Elle est née dans les camps et ils ont grandi à Marseille, de ce côté-là, dans le fameux quartier arménien de Marseille, à Saint-Antoine. Tous les 6 mois, je vais retrouver une famille arménienne qui tient une épicerie là-bas à Septem-les-Vallons, qui s'appelle Yerevan. Ils ont des trucs incroyables et ils ont notamment ce type de charcuterie arménienne qui s'appelle le basturma. C'est de la viande de bœuf séchée dans une croûte d'épices. C'est incroyable. C'est comme de la viande de grison, mais c'est mieux, quoi. Moi, j'ai trouvé ça toujours très fort, cette espèce d'identité arménienne. Et dans la cuisine, c'est fou parce que c'est à la fois perse, à la fois libanais et à la fois tu ressens le joug du communisme froid. Ça a été à la fois pays spolié par la Turquie, le génocide, tout ça. Et à la fois, tu sens que ça a été un moment partie prenante de l'URSS, enfermé dans des carcans où... vous mangerez que des patates et c'est comme ça, quoi.
Et sans ça, tout ça, tu le retrouves à travers la cuisine, alors?
Tu le ressens. Dans la cuisine arménienne, tu le ressens, ouais. C'est un truc vraiment, vraiment singulier. C'est pas du tout le Liban. Le soleil, les épices, tout ça. Tu vas en Arménie, c'est très, très, très pauvre. Les Turcs ont laissé à l'Arménie juste les champs les moins fertiles de l'Anatolie. Vraiment... Et de l'autre côté, par la Daronne, voilà, la Lozère, Nîmes, qui est pour moi une des villes les plus gastronomiques qu'on peut trouver en France. On y mange super bien, sur le pouce comme à table. On parlait de l'Impérator tout à l'heure, mais il y a des restos incroyables. Et les Halles, là on vient de fêter hier ou avant-hier, je crois, les 140 ans des Halles, qui sont peut-être en péril. La relation entre Nîmes et la gastronomie, moi j'ai grandi un peu à Nîmes, c'était dingo. Mmh. Tu vas faire les Halles le matin, tu pètes un câble. Il y a de la bouffe de partout, des senteurs, des trucs. J'ai grandi un moment à côté de la Placette, quartier gitan, on allait manger à la cantina. Tu vois, t'es entre les Halles et la Placette, la relation à la cuisine, c'est assez dingue. Peut-être mon entrée dans la cuisine italienne à Nîmes, c'est les pâtes fraîches. Un lieu emblématique, une famille, la famille Montagnani, qui est emblématique... par rapport à cette cuisine-là italienne à Nîmes, c'est incroyable. Dans une ville qui vit que pour l'Espagne, tu vois, et qui est un monument de la gastronomie dans ce coin-là, quoi. Je crois que l'histoire, c'est une dame qui faisait du ménage, et genre les héritiers de Montagnani, ils n'avaient pas d'héritier ou je sais pas quoi, ils lui ont filé l'entreprise, et elle a fait des pâtes fraîches, elle a fait des trucs de dingo. Là, aujourd'hui, t'y vas, c'est génial. Ils ont ouvert un truc à Saint-Quentin-la-Poterie. Ils ont les Halles à Nîmes, ils ont leur épicerie, la place du marché. C'est l'Italie, le truc. C'est incroyable. Ils font des pâtes, mais c'est incroyable. Ils ont des espèces de petites pâtes au safran. Là. Mais tu pètes un câble. Tu fais ça, là, avec du beurre. C'est fou.
We'll be right back. sol blanc i sol daurat. Ciutat, ciutat, desperta el somni pàl·lid i embriac. Ciutat, ciutat, Déu s'ha dormit en soledat. Ciutat, ciutat, esperit de teatre abandonat.
Il y a moins de distance entre la Lozère, Nîmes et les Cévennes et le Vigan qu'entre l'Arménie et la France. Mais du coup, comment on arrive ensuite jusqu'au Vigan, ici?
Mes parents, ils avaient un couple d'amis qui habitaient à Larbousse, la famille Medge, Marie-Guy et Jean-Paul Medge, qui sont les parents de Grégoire Medge, qui fait les pommes et les oignons à Larbousse. Donc ma mère, c'est la marraine de Grégoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les années 90, 80, là, ils venaient vivre comme des Romanichel dans un terrain. Ils dormaient dans un abri. C'était cette époque-là où tu vivais un peu comme tu voulais, sans forcément être à la marge. Vraiment, c'était les Cévennes, quoi. Ils allaient défricher ce terrain. Ils venaient un week-end toutes les 2-3 semaines. Ils venaient pour les vacances et ils vivaient... les Cévennes à leur façon, quoi. Et du coup, quand moi, il a été question de me poser, j'ai beaucoup bougé, les études, les différents jobs, les revirements de vie, tout ça. C'était le Vigan ou rien, quoi. C'était très drôle. Cette espèce d'enracinement, de trucs, de valeurs refuge, un peu de lieux où tu pouvais à la fois te poser, à la fois pouvoir réfléchir à monter une famille, à faire des trucs un peu plus sérieux, familièrement parlant, je veux dire. Peut-être dans une géographie de valeurs qui sont les miennes. Moi, je suis beaucoup plus proche de lieux qui s'entraident et de gens qui s'entraident plutôt que l'inverse. Et pour moi, la cuisine, c'est de l'entraide, c'est donner à manger aux gens, c'est la cantine du jeudi à l'étuve à prix libre pour aider les précaires, tu vois, ou faire bosser les jeunes à Salagosse, des trucs comme ça. Ça, c'est la cuisine, tu vois. C'est pas réfléchir à quelle marge je vais pouvoir faire au maximum pour pouvoir... Non, on s'en fout de ça. C'est rempli de valeur, la cuisine. Dans une époque où mes parents, avec la clique de Larbousse, là, ils descendaient à la foire de la pomme et de l'oignon. Ils descendaient de Larbousse déguisés en drag queen, déguisés en... Ils faisaient des espèces de processions, c'était la teuf jusqu'à 4 heures du mat. C'est ça, là, les Cévennes, le pays viganais. Jacques Harry mange des tomates.
Entrez. Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates nuit et jour.
Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs.
Délaisse les patates pour ce fruit égarate. La tomate en salade ou tomate farcie.
l'opéra en chantant la Tosca. Un grand ténor ayant manqué le la. On reçut ce soir-là des tas. Sa femme en sortant de là le consola. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne une bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Par ces mots, supprimons la bomba, supprimons la, et remplaçons la par ce fruit délicat. Mange des tomates, mon amour, mange des tomates nuit et jour. À la tombe qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
Cette boutique, le Maquis, je ne sais pas si on doit appeler ça bar à vin, caviste, petit restaurant aussi. D'où te vient l'idée? Comment t'en es venu déjà au vin?
C'est un rêve depuis 10 ans. Quand je suis parti en Argentine faire un master en histoire politique et musicologie, je me suis rendu compte que le truc qui me manquait le plus, en fait, c'était le pain et le pinard et la ratatouille de la daronne, quoi. Du coup, quand je suis revenu, j'ai bossé dans un resto à Paris, c'était il y a donc en 2014, 100% cru, 100% vegan, 100% bio, enfin que des barrières, on pourrait croire. En fait, non, c'est un puissant fond de possibilités que nous offre un labo de cuisine, quoi. J'ai fait une carte de vin sans sulfite. Et ça a commencé comme ça. J'ai commencé à nouer une relation avec le vin nature petit à petit. J'ai commencé à rencontrer des gens. Après, entre-temps, j'ai repris mes études, j'ai refait de la recherche, j'ai voulu être prof. Et quand il a été question de, du coup, pas être prof, parce que ça me saoulait, j'avais pas envie de ça, ben, je me suis lancé dedans. J'ai bossé à Nice, puis après, j'ai bossé ici au Vigan, dans la Biocoop du Vigan. J'ai monté une boîte de distribution de vin nature de gens de gauche, qui s'appelle Morovin. Le nom est équivoque. L'idée, c'était de mettre sur la table de bons restos des petits vignerons, des paysans, des petites vigneronnes aussi et des paysannes. Donc je bosse avec notamment Anne Paillet qui est à Quissac, je bosse avec Guillaume Thirier qui est au Vigan, tu vois. J'ai fait ça pendant 2 ans et là, paf, je visite cette ancienne fromagerie et ça l'a fait en 2-2, quoi. Du coup, il n'y a pas forcément d'étiquette particulière, hein. C'est une cave où il y a 200 refs de vin nature, quasiment 90% local. Je fais resto le samedi midi, jour de marché. Et tout l'été, j'ai invité des chefs en résidence à venir faire à manger de la vraie cuisine parce qu'il y avait un manque de ouf au Vigan pour faire de la vraie cuisine. Donc il y a des potes, chefs de resto ou des chefs en itinérance qui n'ont pas forcément d'établissement, qui sont venus tout l'été faire vraiment se faire plaisir, quoi. Et toujours dans une réflexion sociale. J'ai gardé tous mes producteurs de la Biocoop. Donc j'ai passé quasiment pour tout l'été à bosser avec des légumes moches et invendus. Les mecs qui venaient le mardi ou le samedi me dire « ouais, j'ai ça ». On cuisinait tout à base d'invendus, quoi. Des fois, je faisais des menus plats du jour parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça. Et derrière, des plats du jour à 10 balles. Parce que c'est trop important. On est au Vigan, c'est important que l'accès à la fois au pinard, à la fois à la bonne cuisine, soit pour tout le monde. C'est pas normal que tu veuilles aller manger un truc, ça te coûte 18 euros et que ça vienne de chez Métro. Là, avec tous les maraîchers bio qu'on a dans le coin, tu vois le marché du vegan le samedi, c'est un délire. Moi, j'ai rarement vu ça.
Le titre de l'émission, c'est Cuisiner avec amour, et j'en viens souvent à cette question. C'est quoi la place de l'amour dans ta cuisine et dans ce que tu fais au quotidien et donc dans ta vie par extension?
Tu vois, moi, j'ai un enfant de 4 ans et quand je la vois manger et tout, je me dis, ah ouais, c'est cool quand même. C'est des rapports très, très simples, vraiment. Tu as quelque chose qui te rentre dans la bouche et tu prends du plaisir et tu es là, oh putain, c'est bon. Et en fait, on est tous des enfants quand c'est par rapport à la cuisine. Ça vient cocher des cases par rapport à ton terrain d'enfant, comme Bourdieu disait, tu vois, il y a cette espèce de déterminisme par rapport à la cuisine et tout. Mais des fois, c'est super simple, il n'y a pas besoin de réfléchir, à tirer l'arigot. C'est vraiment, ça te plaît, ouais. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Et l'amour, c'est marrant parce que c'est à la fois très familial, à la fois très par rapport à avec qui tu partages ta vie. Tu vois, moi, j'ai rencontré ma copine quand elle est venue chercher du vin nature à la Biocoop et on est tombé amoureux et tout. Je trouve ça génial. L'amour, c'est quelque chose vraiment à irriguer. Alors, on peut l'arroser de vin, vin nature, pourquoi pas. Mais nourrir les gens, c'est de l'amour. Nourrir les gens qu'on a le plus besoin. Alors là, c'est comment ne pas aimer son prochain, tu vois. Il y a presque un côté biblique du truc, tu vois, qui sont là en mode simplicité, juste parole, position, aumône, tout ça, tout ce que tu veux, hein. Nourrir autrui, tu vois. La cuisine, c'est génial pour ça, c'est magique.
Et une vie sans amour, du coup?
C'est comme manger du sable, c'est nul. Donc, je m'appelle Ruben. Venez me voir au Maquis, 8 places du marché, au Vigan, boire un coup. Je fais bar, je fais resto, le samedi midi, jour de marché. Je fais d'autres événements à droite, à gauche. C'est une cave aussi. Venez discuter autour d'un canon de pourquoi tel vigneron est sur les étagères. Pourquoi tel vigneronne est venu la semaine dernière faire déguster ses canons. Et voilà.
Merci d'avoir rejoint notre petit voyage culinaire, c'était Cuisiner avec amour. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles recettes, de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partage. Sur ce, continuez à cuisiner avec amour, à partager avec passion et à célébrer chaque instant avec délice.
This look for you, because I have nothing to do. My hopes are gone, but I can see all the presents you gave to me. I bring some flowers for you, Carol.